Monsieur Gilbert Nguerre-Payo, bonjour.
Bonjour, bonne aventure.
L'association Soleil International vient de voler au secours de l'école des sourds-muets dont vous êtes le directeur. Qu'est-ce que cette ONG a fourni concrètement pour soulager les enfants dans leur apprentissage?
Je voudrais d'abord témoigner mes gratitudes à l'association Soleil. Alors l'ONG Soleil nous a livré une vingtaine de tables bancs et il a réhabilité les portes de 3 salles de classe. Ils ont parlé des clés de cadenas.
Ils ont parlé ou bien ils ont donné?
Ils en ont parlé, mais je suis sûr qu'ils le feront parce qu'ils m'ont appelé pour dire qu'ils le feront. Donc vraiment, je leur fais confiance et je n'ai pas d'inquiétude.
Quelles sont les promesses que l'association Soleil International a faites pour ses enfants?
Oui, l'association Soleil International a fait de bonnes promesses. D'abord, du paiement des carnets de notes et des assurances scolaires pour tous les élèves et surtout de la prise en charge des enseignants.
Quel est le paiement des enseignants ici à l'école des sourds-muets de Benzville?
Bonne aventure. Vraiment, j'ai honte de donner le montant de cet intéressement, mais je le dis, ils ont 17 500 francs par mois. C'est même pire que l'intéressement d'un serveur de bar ou bien un serveur de Dachiumba.
Mais de Gargote.
De Gargote, merci beaucoup. Mais en dépit de ce maigre intéressement, ils ont beaucoup de volonté pour aider leurs cadets sourds-muets. Nous vivons dans l'obscurité à l'école des sourds-muets. Et l'association Soleil est intervenue en notre faveur. Donc le soleil s'est levé à l'école des sourds-muets et je crois que l'association Soleil brillera davantage au niveau de notre établissement. La philosophie du chef de l'État qui dit un élève, un table banc. Grâce à l'association Soleil, la philosophie du chef de l'État, un élève, un table banc est devenue réalité au centre d'éducation et de formation des sourds-muets.
Après cette dotation à l'école des sourds-muets de Benzville, qu'est-ce que vous craignez dans ce quartier particulièrement?
Ce que je crains, c'est le cas de vandalisme qui est fréquent ici au sein de notre établissement. Donc je crains que ces tables bancs ne soient volées, ne soient détruites. Pour le bon usage de ces matériels, nous allons d'abord sensibiliser les élèves de faire un bon usage. On n'est pas les cassons parce que pendant les récréations, des fois les élèves sortent sur les tables bancs, ils font du n'importe quoi, ils les remuent. Donc je vais leur dire de faire un bon usage.
Ne pas écrire sur les tables
bancs. Tout à fait, ne pas écrire sur les tables bancs, ne pas gratter les tables bancs. Des fois on amène des couteaux pour gratter n'importe quoi. Donc il faut vraiment protéger ces tables bancs. Je dois aussi sensibiliser la population et surtout les voisins. Cette école-là est un bien social, donc ils doivent aussi en prendre soin. Bien que nous n'ayons pas de gardiens, eux, ils peuvent se porter volontaires pour surveiller l'école, pour surveiller ces tables bancs, pour que cela ne soit pas emporté à d'autres fins.
Combien d'enfants sourds-muets la société vous a-t-elle confié pour éducation?
Présentement, l'école des sourds-muets compte 152 élèves, dont 99 garçons et 53 filles.
Qu'est-ce que vous déplorez du côté des parents d'élèves sourds-muets?
Ce que je déplore du côté des parents d'élèves sourds-muets, c'est le versement des cotisations. Puisque nous manquons d'enseignants qualifiés, affectés par le gouvernement, l'école a pris des dispositions pour recruter des volontaires et les parents doivent contribuer, cotiser 1000 francs par mois pour l'intéressement de ces volontaires. Force est de constater que cela ne se fait pas comme il se doit, donc nous avons des problèmes à verser les intéressements à ces volontaires.
Est-ce que vous avez procédé à des sensibilisations suffisantes pour ces parents d'élèves qui malheureusement ne payent pas les cotisations?
Des sensibilisations ont été faites à outrance, je dirais. Il y a certains parents qui déploient des efforts. Par contre, la majorité ne le font pas. La cotisation, c'est mensuel. Il y a quelques-uns qui ont épongé leur cotisation jusqu'au mois de juin même. Mais ceux-là, ils ne sont pas plus de 5.
Comment appréciez-vous l'intervention du gouvernement centrafricain en faveur des élèves sourds-muets par rapport à l'article 33 du décret portant statut, protection et promotion de la personne handicapée en République centrafricaine?
permettez que je lise l'article 33 du décret numéro 02-205 fixant les règles d'application de la loi numéro 00-007 du 20 décembre 2000 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée en République centrafricaine. L'article 33 de ce décret stipule: l'aide à l'éducation et à la formation professionnelle des jeunes handicapés comprend la formation du personnel enseignant dans les écoles normales, l'affectation de personnel qualifié dans les instituts privés d'éducation spécialisée et l'octroi des subventions et de matériels didactiques spécialisés, l'attribution des bourses scolaires et universitaires, l'attribution des aides en espèces ou en nature aux jeunes handicapés indigents et aux enfants des parents handicapés nécessiteux. Alors, souffrez encore que je revienne sur l'alinéa 1 de cet article. L'aide à l'éducation et à la formation professionnelle des jeunes handicapés comprend la formation du personnel enseignant dans les écoles normales. Alors, jusqu'à présent, vous pouvez fouiller un peu à l'ENI de Bambari ou à l'ENES ici. J'ai souvent dit que dans toute entreprise, les premières ressources, ce sont les ressources humaines. Pour atteindre les résultats escomptés d'une entreprise, il faut des ressources humaines. Le centre d'éducation et de formation de sourds-muets, qui est l'unique structure chargée de la formation et des éducations des sourds-muets en République centrafricaine, ne dispose d'aucun enseignant ressortissant de l'école normale supérieure, que ce soit l'école normale des instituteurs ou l'école normale supérieure. Présentement, il n'y a aucun enseignant dans cet établissement et depuis que ce décret a été signé jusqu'à présent, il n'y a eu aucun ressortissant d'une école normale destinée à l'encadrement ou à l'enseignement des enfants sourds-muets. Mon premier souci, la difficulté capitale du centre d'éducation et de formation de sourds-muets, c'est les enseignants qualifiés. S'il y a le bâtiment, s'il y a les tables-bancs, s'il y a les directeurs...
Et les enfants.
Et s'il n'y a pas d'enseignants qualifiés. Alors imaginez l'éducation de ces jeunes sourds-muets. C'est de la nullité, pour ne pas parler de la médiocrité.
Leur avenir.
Et leur avenir est vraiment hypothéqué. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Permettez que je vous dise aussi, on dit le plus souvent, les sourds sont très dangereux, les sourds sont très nerveux. Mais c'est ce qui les rend nerveux, parce qu'ils sont marginalisés au niveau de leur éducation.
Par rapport à toutes ces difficultés, avez-vous un appel à lancer à l'endroit des autorités du pays?
En ma qualité d'enseignant expérimenté, je voudrais lancer un cri de cœur à un éminent enseignant de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Toadera, de bien vouloir jeter un coup d'œil d'enseignant sur l'école des sourds-muets pour toucher la réalité de ce qui se passe ici au niveau de cet établissement. Nous sommes marginalisés, nous, Excellence, depuis que cette école a été étatisée, il y a plus d'une vingtaine d'années, nous avons toujours été marginalisés. Nous nous noyons de plus en plus.
Est-ce que cela veut dire qu'aucun ministre de l'éducation n'a mis pied ici pour toucher du doigt les difficultés de cette école?
Peut-être que le ministre l'aurait visité à mon absence, mais tous les ministres d'éducation qui sont passés là sont bien placés pour répondre à cette question. Est-ce que l'un d'eux a au moins palper ce qui se passe au niveau du centre d'éducation et de formation de sourds-muets?
Monsieur Gilbert Nguerre-Payot, je vous remercie.
Merci beaucoup, bonne aventure.